Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour le dernier numéro de la semaine. Mardi dernier a été projeté au Christ-Roi à Toulouse le film documentaire Louis Massignon, Le Vœu et le Destin, réalisé par Grégor Tomczak. Une projection suivie d'une table ronde dédiée au célèbre orientaliste, islamologue et universitaire français, pionnier, précurseur du dialogue islamo-chrétien au début du XXe siècle jusqu'aux années 60. Nous allons revenir sur ce film et sur la vie et l'œuvre de Massignon avec les deux invités de cette émission. Et mes deux invités ont participé à la table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer mardi. Bienvenue à Grégor Tomczak, réalisateur du film Louis Massignon, Le Vœu et le Destin. Et bienvenue au père Jean-Jacques Rouchy, islamologue. Il a été aussi délégué épiscopal, chargé des relations avec l'islam ainsi que des relations interreligieuses au diocèse de Toulouse. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous pour les auditeurs de Radio Présence. Grégor Tomczak, il y a une question qui me brûle les lèvres. Vous êtes franco-polonais, mais vous avez grandi en Pologne. Vous êtes diplômé de l'école de cinéma de Lodz. Comment un cinéaste polonais en vient à s'intéresser à un islamologue français ?
Bonjour. Je pourrais dire qu'il y a eu un traducteur du Coran, Albert Kazimierski, au XIXe siècle, qui a fait partie de la grande émigration polonaise après l'insurrection de novembre 1930. Qui est une référence encore aujourd'hui. Mais à vrai dire, j'ai appris seulement en France qu'il y a eu Kazimierski. Pour moi, le début, c'est Tibérine. Et un projet du film de 52 minutes sur l'un des moines de Tibérine, Christophe Le Breton. J'ai appris, bien entendu, à cette occasion que Christophe faisait partie de trois moines de Tibérine qui participaient aux rencontres Ribat es-Salam, ce qui veut dire lien de la paix. Et donc, ce film-là m'a ouvert cette voie-là où je ne suis pas entré pour différentes raisons. Le format du film, 52 minutes, ne m'a pas permis de développer tout ce que j'aurais souhaité. Donc, je suis resté un peu sur ma faim. Et quand ma productrice, après cette expérience qui était vraiment passionnante, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je lui ai dit, j'aimerais bien pénétrer un peu dans le dialogue islamo-chrétien. Elle m'a dit, ah ben dis donc, tu es courageux, tu ne sais pas où tu mets le pied. Effectivement, je ne savais pas du tout. Donc, il y a eu pas mal de difficultés, différentes difficultés après. Mais j'en suis très heureux, parce que grâce à ces difficultés, j'ai découvert Louis Massignon.
Père Jean-Jacques Rouchy, Louis Massignon, vous l'avez découvert comment? Est-ce que c'est en vous intéressant aux relations entre l'islam et le christianisme, ou est-ce que vous l'avez connu bien avant?
Alors Massignon, je l'ai rencontré de façon un peu indirecte pour la première fois dans la bouche du père Jaumier, qui est un dominicain qui a vécu donc 40 ans au Caire et qui a rencontré Massignon. Et donc comme j'étais déjà un peu engagé dans les relations islamo-chrétiennes, mais en parlant avec lui, voilà, il m'a raconté un certain nombre de choses intéressantes. Et puis, bon, je l'ai retrouvé dans les études, si vous voulez, que j'ai pu faire pour essayer d'assurer un cours très modeste qui s'appelait « Connaissance de l'islam ». Et puis, des cours aussi sur l'interreligieux ou des conférences. Et effectivement, Massignon est un élément important, si l'on peut dire, dans le changement de regard sur les musulmans consécutif au Concile Vatican II. On peut dire que son aventure spirituelle a été une des étincelles qui ont allumé dans le regard des officiels de l'Église un peu plus de bienveillance et surtout la recherche que le pape François d'ailleurs a essayé d'illustrer d'une fraternité dans la connaissance mutuelle et surtout dans le travail commun pour améliorer le monde. Donc je crois que ça a été une sorte de starter. C'est un point dans l'histoire, hein. Mais c'est un de ces points qui allume des lumières, me semble-t-il.
Alors je rappelle les dates de naissance et de mort de Louis Massignon, donc né en 1883, mort en 1962, au moment où va s'ouvrir le Concile Vatican II.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que Paul VI, enfin, quand il n'était que le cardinal Montini, je ne sais pas s'il a rencontré Massignon, c'est possible. Je ne sais pas si c'est une affiliation officielle, mais il était en tout cas en grande sympathie avec le mouvement spirituel de la Badalie, c'est-à-dire de la, l'offrande de la souffrance de soi-même pour les autres. Voilà, donc il est certain que ça... un impact peut-être par la façon dont Paul VI a achevé le concile et a donné les consignes, donc avec en particulier sa grande encyclique qui est écrite dans le concile Ecclesiam Suam, qui lance un petit peu des pistes très importantes pour calibrer, si j'ose dire, et éclairer un peu la mission sous un nouveau regard, dialogue et annonce.
Grégoire Tomczak, le film s'ouvre sur des images de Massignon âgé vers la fin de sa vie en Bretagne, là où il organisait son pèlerinage islamo-chrétien, on y reviendra, à Vieux Marché dans les Côtes d'Armor. Donc vous avez commencé par le Massignon des dernières années, après on va découvrir la famille dans laquelle il a grandi. À quoi ressemble la famille de Massignon? Dans quel milieu va-t-il grandir? Et quelles vont être les premières rencontres décisives dans sa jeunesse?
C'était une famille, comme dit l'un des biographes, typique pour cette période de la fin du 19e siècle, avec un père très actif dans la vie publique, qui était libre penseur. Les biographes précisent, pas franc-maçon, mais libre penseur, qui avait beaucoup d'amis parmi les francs-maçons. Et la mère, qui était d'origine flamande, qui était, comme disait Léon Blois, par rapport à sa mère qui était d'origine, elle, espagnole, c'était une chrétienne des anciens jours, hein, c'est François Angélier dans les films, qui résume joliment cette situation filiale du petit Louis. Et donc le garçon, je pense, il vit une certaine pression, une tension à l'intérieur de la famille de son plus jeune âge. Et donc... quand son père, au moment où lui aura quelques années, où il sera le préadolescent et après l'adolescent, cherchera à expliquer à son fils les principes de la philosophie matérialiste, etc., ça va être peut-être une première crise spirituelle du jeune Massignon qui ne trouvera pas d'argument pour répondre solidement à son père. Après... il y a aussi un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, dont je ne parle pas directement dans les films. On est obligé de faire des choix, donc de ne pas tout dire. C'est une époque, donc ce n'est plus le romantisme, mais déjà les romantiques ont fait le travail d'inculturation par rapport à l'Orient. C'est-à-dire ils ont découvert un territoire d'inspiration esthétique, philosophique, narratif dans l'Orient. Et donc, cette curiosité de l'Orient circulait dans la société. Les enfants, en lisant les magazines pour enfants, les livres pour enfants, eh bien, ils découvraient des vies fictives, héroïques, d'Européens, de Français qui s'aventuraient dans un désert du Sahara ou ailleurs, au contact avec l'univers arabe et musulman. Et donc, ça a certainement fait rêver et fantasmer Massignon. Il a toujours été attiré de son plus jeune âge par l'Orient. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que parmi ses amitiés de son plus jeune âge, il a noué beaucoup d'amitiés avec des personnes dont certains sont devenus vraiment des écrivains ou des scientifiques très célèbres. Je pense notamment à la famille Maspero, qui était l'orientaliste, spécialiste de l'Extrême-Orient, alors que la vie de Massignon l'a poussé vers le Maghreb et vers le Moyen-Orient.
Il y aura notamment comme rencontre, me semble-t-il, décisive, celle de Huysmans, écrivain converti au catholicisme, qui va connaître par le biais de l'entourage de son père et qui va lui faire découvrir ce qu'on appelle la substitution mystique. Alors, qu'est-ce que c'est la substitution mystique? Parce que ça, c'est fondamental pour comprendre la pensée de Massignon et son rapport à l'autre.
Je pense que Rouchy, peut-être vous voulez... Je prends la parole.
La théologie de la substitution, c'est tout simplement l'origine, je pense, le fait que le Christ sur la croix, dans son humanité et dans sa mission reçue du Père, dans sa divinité, a subi les conséquences du péché des hommes pour compenser la rupture que ce péché a produit et qui amène les hommes, bien après la mort, à disparaître. Donc, c'est une compensation, on appelle ça la satisfaction vicaire Le vicaire, c'est celui qui peut remplacer le curé. Le vicaire, c'est celui qui fait quelque chose à la place d'un autre. Donc le Christ s'est offert pour nous réconcilier avec le Père. Et donc c'est son obéissance au Père concrétisée dans sa passion, sa mort et sa résurrection et le don de l'Esprit. C'est la victime, si vous voulez, qui prend à notre place. C'est le divin paratonnerre qui va attirer pour l'annihiler la séparation d'avec Dieu.
Oui, tout à fait. Je voudrais, si vous permettez, d'ajouter un petit détail qui concerne, encore une fois, le contexte de la jeunesse, de l'enfance de la jeunesse de Louis Massignon. C'était la Troisième République, ambiance sociale d'un certain confort, d'une certaine suffisance étouffante. Et donc, les jeunes gens, c'est normal, quand on est jeune, on aspire à aller plus haut et plus loin. Et donc,
c'est un héroïsme.
Vivre une forme d'héroïsme et aussi...
L'aventure aussi,
rechercher l'absolu. Et donc je pense que ce double intérêt du jeune Massignon, c'est-à-dire d'un côté l'Orient, donc qui est prometteur d'aventure,
et
d'héroïsme,
mystère,
des mystères, d'exotisme.
Mais c'est encore la grande époque coloniale aussi.
C'est ça.
La découverte des autres mondes.
C'est ça. Donc ça rimait effectivement avec un esprit colonisateur. Et en même temps, découverte des attitudes sociales différentes que dans cette France étouffée par les principes des vies un peu étriquées, malgré tout, trop confortables.
La vie bourgeoise, celle qu'on pouvait connaître à la fin du 19e siècle dans les familles comme celle de Massignon.
Absolument. Donc du coup, c'est tout à fait logique que lorsque Massignon découvre l'hospitalité dans le sens abrahamique et dans le sens arabe, il en est bouleversé, il en est enthousiasmé, parce qu'il ne connaissait pas cette forme d'hospitalité dans les sociétés occidentales, et donc françaises aussi. Et de l'autre côté, le deuxième élément, c'est cette soif d'absolu. Ce qui explique, je pense, quelque part aussi tout un courant, parce que Massillon n'était pas le premier ni le dernier, tout un courant de conversion, de convertis de la belle époque.
Les grands convertis, du début du XXe.
Voilà. Dont fait partie Huysmans.
Huysmans.
Claudel,
etc. Donc Huysmans, que Massignon a rencontré avec beaucoup de scepticisme, il écoutait sans écouter, mais finalement, quand il partira quelques années après en Mésopotamie, avant sa conversion encore, comme par hasard, il prend avec lui, dans ses valises, la vie de Sainte-Ludivine d'Esquedam, que Huysmans était en train de rédiger à Ligugé, donc chez les bénédictins de Ligugé.
À côté de Poitiers, oui.
C'est ça, au moment de la première rencontre. Et donc tout ça, pour moi, c'est assez logique, c'est-à-dire que aussi les circonstances extérieures ont poussé Massignon sur cette voie.
Je crois qu'il y a aussi un début de ce qui sera la Badalie, c'est-à-dire une sorte de communauté spirituelle avec la rencontre de ces monastères. Ça lui donne l'idée d'une communauté qui a un même idéal et une même spiritualité. Il me semble que ça a pu façonner aussi
C'est ce qu'avait voulu faire Huysmans, c'est justement à côté de Ligugé, avec une espèce de communauté artistique de l'artiste chrétien là, qui se serait
réunie. Une sorte de modèle monastique, quoi, si
Une espèce de familistère catholique et artistique. Alors, il va partir effectivement pour de bon en Orient. Il est attiré et il va y aller, Massignon. Précisons qu'il a bien été baptisé, hein. On parle de conversion. Je ne sais pas si un baptisé se peut convertir à sa propre religion, mais ça, on va y revenir à sa conversion.
On n'a jamais fini de se convertir.
Voilà, sa conversion proprement dite, de cœur et d'âme. Il part donc en Égypte, puis en Mésopotamie, et il va y avoir là-bas une rencontre très importante, c'est celle de Luis de Quadra, un Espagnol. Alors, vous allez nous la raconter, parce que ce qui va nous amener à parler de Mansour al-Hadj.
Oui, en fait, c'est assez curieux. Je reviens encore sur le rapport de Jules Massignon avec ses parents. Le père qui n'était pas croyant, qui se disait athée, mais qui quand même avait une admiration sans borne pour Jeanne d'Arc.
Oui, qui l'emmène à Domrémy.
Qui est allé à plusieurs reprises avec son fils à
Domrémy. Au pèlerinage
à Domrémy. C'est ça. Et donc, c'est son père qui veillait tout le temps sur l'éducation de son fils. Il l'envoyait en voyage, il préparait ses voyages, le voyage au Maroc, des découvertes de l'huile africaine, etc. Et il y a un moment dans la vie du jeune Massignon où il entretient une liaison avec une danseuse de musical, que Massignon, dans ses notes sur la conversion, appelle JN, ça veut dire Julia N. C'est une danseuse d'origine américaine. Le biographe On cherchait désespérément, aucune trace possible de retrouver l'identité de ce personnage. Mais ce personnage a bel et bien existé. Et donc le père, qui est très inquiet, il trouve pour son fils un poste à l'Institut d'archéologie orientale au Caire. Donc il lui prépare un voyage en bateau, cette fois-ci de Marseille à Alexandrie. Et fatalement, il y rencontre un dénommé Luis de Quadra, que vous avez évoqué dans votre question, qui est un homosexuel converti à l'islam.
Oui,
converti
à l'islam. Ce qui déjà est une particularité.
Oui. Et donc tout bascule à ce moment-là, c'est-à-dire que finalement sa crise de foi s'accentue et s'est actée. C'est-à-dire il perd la foi. Il dit « j'ai perdu la foi sous une... »
Un double assaut intellectuel et charnel.
C'est ça. Donc charnel aussi et intellectuel, on le sait depuis longtemps.
Puisqu'il va avoir une relation avec Luis de Quadra, disons les choses.
Mais en même temps, et ce qui est intéressant, c'est que Luis de Quadra, comme quoi rien n'est simple ni... ni
chimiquement pur.
Oui, rien n'est mauvais, et on peut dire peut-être rien n'est bon non plus dans l'absolu, mais je n'en sais rien, mais en tout cas, la rencontre avec Luis de Quadra, certes, l'a poussé vers les bas-fonds d'Alexandrie et du Caire.
Oui, parce qu'il va mener une vie de débauche.
De débauche, oui, c'est ça.
L'a amené à s'intéresser d'autant plus à l'islam.
C'est ça. Mais en même temps, il s'est mis à s'intéresser à l'islam, c'est-à-dire aux mystiques musulmans qui recherchaient Dieu, et c'est-à-dire l'absolu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque quelques années après, c'est-à-dire après sa conversion qui aura lieu en Mésopotamie, il découvre la foi. Donc, il a cette idée de substitution mystique, c'est-à-dire d'utiliser la théorie de Sainte-Lie divine d'Esquedam, de Huysmans, qu'il transforme un peu, pour donner sa vie pour les musulmans. Mais un détail qui n'est pas souvent mentionné, important à mon avis, c'est qu'avant, il détermine cette attitude de substitution mystique vis-à-vis de son ami Luis de Quadra, qu'il aimait, mais il était malheureux de constater que Luis de Quadra allait quelque part vers sa perte. Et donc, la première substitution mystique, c'est vis-à-vis de Luis de Quadra, en élargissant le spectre envers les musulmans, vers les homosexuels, et après vers les musulmans. Donc, il y avait plusieurs degrés. Et c'est pourquoi il est très important de fouiller dans la vie de Massignon, parce qu'on trouve des éléments qui éclairent son parcours, mais en même temps, on s'y perd un peu. C'est un labyrinthe.
Oui. C'est en cela qu'il est insaisissable.
Peut-être ajouter, le christianisme du XIXe siècle était encore très marqué par le jansénisme et la crainte de l'enfer. Et donc, il fallait à tout prix tout faire pour sauver. Et pour sauver, il fallait faire comme le Christ, donner soi-même pour le salut des autres.
Oui. Je crois c'est un aspect très pénitentiel et doloriste du christianisme, qui marque Massignon, d'ailleurs.
Oui. Mais c'était général, Moi, je me souviens d'une vieille voisine que j'ai accompagnée vers la fin de sa vie, qui avait une peur panique de l'enfer. Elle avait été formatée, si l'on peut dire, spirituellement dans cette...
Alors, je l'ai dit, un personnage important pour Massignon que lui fait découvrir Luis de Quadra, c'est Mansour Al-Hadj, mystique persan, mort en martyr, crucifié en 922 à Bagdad, donc qu'on peut rattacher au soufisme. Pourquoi la découverte de ce personnage va être importante pour Massignon, père Jean-Jacques Rouchy?
Mais Massignon, je pense, va découvrir dans cette figure un chemin pour redécouvrir le Christ. Al-Hadj va lui paraître christique. Je pense qu'on peut dire que lorsque Farid, l'introduire à la connaissance de ce martyr, effectivement, il va quelque part y reconnaître ce qui est pour lui l'essentiel du Christ, c'est-à-dire l'homme qui donne sa vie pour les autres et qui rejoint tout ce qui vient d'être dit sur la substitution. Alors Al-Hadj, est un mystique donc qui recherche l'unité avec la divinité, ce qui, pour le dogme classique de l'islam, c'est le pire des shirk, des choses, c'est-à-dire de l'associationnisme. Et il a même dit qu'il était al-haq, c'est-à-dire la vérité.
Je suis la vérité.
Alors effectivement, s'il est fusionné avec la vérité, il peut dire « je suis la vérité ». Voilà. Et donc, dans le baptême, nous considérons que nous sommes configurés au Christ. Donc, pour un chrétien, c'est tout à fait recevable. Mais pour l'islam, je dirais classique, c'est la pire des hérésies. Et donc, on comprend qu'il ait été exécuté dans la pire des exécutions, c'est-à-dire la croix, au point que le Coran affirme, comme Jésus est un prophète, il n'a pas pu être mis en croix parce que c'est le pire. Al-Salib, c'est vraiment le... Donc, il a, je pense qu'il a senti qu'il y avait là, enfin, je pense que c'était pas très conscient forcément, mais dans son intuition spirituelle, ça l'a mis en route vers une redécouverte de ce qui est pour lui et pour son époque était essentiel dans le Christ.
Oui, tout à fait.
Nous sommes à peu près au milieu de cette émission. On va parler dans quelques instants de la conversion de Massignon à l'issue d'un événement qu'il a appelé la visitation de l'étranger. Avant ça, nous allons faire la pause dans cette émission, comme d'habitude. Louis Massignon ayant vécu en Égypte, au Caire, nous allons faire un petit clin d'œil à ce pays qui a beaucoup compté dans sa vie en écoutant le troisième mouvement du concerto pour piano numéro 5 de Camille Saint-Saëns, appelé aussi concerto égyptien. C'est le Toulousain Bertrand Chamaillou qui est au piano. Seconde partie de Vivante Église avec mes deux invités, le cinéaste Grégor Tomczak, réalisateur du film Louis Massignon, Le vœu et le destin, et le père Jean-Jacques Rouchy, ex-délégué épiscopal chargé des relations avec l'islam, ainsi des relations interreligieuses au diocèse de Toulouse. Nous sommes revenus en première partie d'émission sur l'enfance et la jeunesse de Massignon, telle que vous la racontez dans votre film, Grégor Tomczak. Et puis il va donc survenir cette conversion à l'issue d'une expérience mystique qu'il a appelée lui-même la visitation de l'étranger. Alors, dans quelles circonstances cela se passe-t-il et qu'est-ce qui lui arrive vraiment à Massignon? Est-ce qu'on le sait d'ailleurs?
Il avait 24 ans. On sait certaines choses quand même. Il s'embêtait au Caire parce que l'archéologie ne l'intéressait pas du tout. Mais il a accepté cependant une nouvelle mission en Mésopotamie, surtout pour la raison, c'est que Al-Halaj, donc le mystique soufi qui le passionnait, a vécu à Bagdad et sa tombe se trouve dans les environs de Bagdad. Mais il a été quand même obligé de suivre son cahier de charge, donc les expéditions archéologiques, etc. C'était une époque politiquement très fragile. D'un côté, un mouvement des jeunes turcs, hein, un mouvement révolutionnaire. De notre côté, des rivalités entre les Allemands et les Français. Cette rivalité s'est traduisée aussi par des jalousies sur le plan professionnel. Et ce sont les archéologues allemands qui dénoncent le jeune Massignon en disant « c'est un espion au service de l'État français ». J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « c'est vrai, il était espion ». Mais personnellement, je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé des documents qui pourraient vraiment le prouver. Il se trouve en tout cas avec sa caravane d'expédition dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, il est accueilli par une salle de bal dans un lieu. Sa caravane s'enfuit. Il ne peut plus continuer vraiment la route. Et les autorités turques l'arrêtent à Alkut, sur le bord du Tigre. Le mettent dans un bateau où il est transporté vers Bagdad. Et c'est là que, malgré quelques essais d'évasion ratés, il essaye de se suicider. Et il vit sa nuit mystique, tout simplement. C'est-à-dire, il est descendu tellement bas qu'il est persuadé que c'est la fin. Il entend des voix qui disent qu'il serait exécuté à l'aube comme espion. Et donc, il est vraiment désespéré. Et c'est là qu'il vit cette expérience qu'il est difficile de raconter de manière réaliste. Lui-même, il l'a nommé la visitation de l'étranger. Il en a parlé souvent. Il en a parlé souvent. La première fois à Claudel. Après, il a été sollicité par je ne sais plus quelle cellule de l'Église catholique qui cherchait les témoignages sur les conversions. Donc, il a écrit ce texte somptueux qui s'appelle « Visitation de l'étranger ». Après, il en a parlé presque toute sa vie, sous une forme ou une autre, avec beaucoup de pudeur, mais sans pruderie. C'est-à-dire qu'il était vraiment très direct. Et Jacques Maritain, par exemple, il dit qu'il en parlait à Rome, à une conférence où il y avait tout un groupe de cardinaux choqués par la franchise de son temps, etc. Et il en parle aussi dans la dernière lettre que j'ai découverte à la BNF Richelieu, lettre adressée à Marie Cahil, donc son amie égyptienne avec qui il a cofondé Badalia. À la fin de cette lettre, revient encore l'épisode du printemps vécu à Bagdad, donc le moment de sa conversion. En tout cas, il est difficile d'en parler. Il est difficile d'en parler et je pense que lui-même, il a utilisé une forme qui est la mieux adaptée pour parler des choses aussi intimes que ça, c'est-à-dire une forme poétique. Bien sûr, comme tout texte poétique, il se laisse interpréter. Une chose est sûre, c'était vraiment le départ d'une conversion probante qui après a duré entre plusieurs jours, plusieurs semaines même. Il y a eu des étapes, hein, ce n'était pas en un clin d'œil. Mais il a été vraiment, de manière radicale, changé dans ses habitudes, dans ses modes de vie, et cet événement qui constitue le départ pour son retour à la pratique spirituelle catholique.
Oui, parce qu'il rentre en France, une fois qu'il s'est retapé, bien sûr, et il va aller à la messe, il va fréquenter des cercles religieux, il va correspondre énormément avec Claudel. Ça, ça a été une relation à la fois intellectuelle et spirituelle très très importante pour lui. Et quelle va être la vie de Massignon ensuite?
Il va retrouver aussi Charles de Foucault, qui a voulu en faire son disciple.
Figure très importante de
après la mort de Charles de Foucault, il est devenu, disons, le promoteur de Charles de Foucault.
Son exécuteur
testamentaire, comme on dit. Hein, oui, c'est cela. Et c'est lui qui a trouvé Bazin pour la biographie de Charles de Foucault. C'est grâce à cela que Charles de Foucault est devenu connu en France. Donc c'était très important au niveau de la communication, comme on dit aujourd'hui. Et puis, de manière infatigable, il a fait beaucoup de démarches administrative, des publications. Il l'a fait imprimer avec ses propres soins certains textes pour les diffuser. Il est allé à plusieurs reprises à Rome, au Vatican. Il a rencontré tous les papes à partir de Pie XI jusqu'à Jean XXIII pour les sensibiliser justement à la cause musulmane, arabe, parce qu'il est tout simplement sur le plan purement humain, lui qui connaissait de l'intérieur la société arabe et la religion de l'islam, il trouvait que c'est une population qui est incomprise et qui est injustement considérée en Occident, notamment en France, et il avait envie tout simplement leur redonner un peu plus de respect.
De considération.
Père,
je voulais juste revenir très rapidement sur la visitation de l'étranger. Donc c'est un phénomène évidemment que l'on peut observer de différents angles de vue, si l'on peut dire. L'apparence des choses, c'est un moment où il a perdu les pédales psychologiquement, il a déconnecté de la réalité. Ça, c'est l'apparence des choses. Et ses détracteurs disent, voilà, il est devenu fou. Point final. un peu laïcard.
Il a eu
aussi,
a eu un moment de folie.
Et alors, effectivement, il y a certainement un phénomène de nature psychologique, une extrême détresse. Et puis, alors, d'un point de vue spirituel, visitation de l'étranger, si j'ai bien compris, l'étranger, c'est-à-dire, il y a dans le Coran une phrase qui dit que Dieu, bien sûr, le transcendant, et l'inconnaissable, tout ça, mais qu'il est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. C'est-à-dire que Dieu est à la fois l'étranger absolu, mais aussi le tout proche.
Le proche absolu.
Voilà, donc la visitation, aussi, c'est Marie qui va voir sa cousine Élisabeth.
Et oui.
Donc, il semble qu'il ait fait, si on peut rentrer dans la spiritualité de quelqu'un, qu'il ait fait l'expérience à la fois de l'extrême altérité de Dieu, qui est un des points forts des convictions islamiques, et de sa proximité. Et l'expérience d'El-Hallaj, donc, qui le vit de façon un peu confusionnelle, d'après les textes, lui le vit de façon extrêmement chrétienne, comme finalement ce que dit le dogme de Calcédoine, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur du Christ entre la divinité et l'humanité se passe aussi dans toute rencontre authentique de Dieu, sans confusion et sans division, sans changement et sans séparation. L'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu, mais ce qu'on appelle la communication des idiomes en théologie. C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est de l'homme communique parfaitement tout en respectant les deux natures. Peut-être un point de vue trop théologique, mais théologie mystique, si on peut dire, il semble qu'il ait fait une expérience de ce style.
Oui, absolument. D'ailleurs, on dit que Dieu, c'est un tout autre. Donc, on pourrait résumer le plus simplement possible ce thème de la visite de l'étranger, ça veut dire c'est la rencontre de Massignon avec Dieu.
Oui. C'est l'étranger avec un grand E, l'étranger absolu et le proche absolu, comme vous le disiez.
Et donc, la vérification de l'authenticité de cette rencontre, ça va être la suite de la conversion.
Oui, alors, il revient en France en 1908, et en 1909, il repart au Caire, il va fréquenter la haute société chrétienne du Caire, et il va faire une rencontre qui me semble très importante aussi, c'est celle de Marie Cahil. Pourquoi va-t-elle être importante, cette rencontre avec cette femme ?
Il a changé d'attitude parce que avant, quand il était notamment à Bagdad, il évitait même le milieu français ou le milieu occidental. Il a choisi d'habiter dans un quartier musulman, etc. Après sa conversion, effectivement, il a d'autres postures, d'autres attitudes. Il fréquente beaucoup plus les milieux chrétiens et c'est de cette manière-là qu'il rencontre une jeune femme.
Chrétienne Melkite,
mère allemande, père égyptien.
Il tombe amoureux de lui.
Oui, et qui était quelqu'un de très proche pour le jeune Massignon. D'ailleurs, dans ses notes sur la conversion, il fait comprendre que il avait peur de prolonger cette relation parce qu'il avait peur de la faire souffrir, de s'engager sur les chemins qui ne seraient pas simples pour lui. Mais en même temps, il était attiré par elle. Il dit que pour la première fois, un visage féminin lui est acceptable. Ce sont des termes assez...
Oui, assez forts.
assez forts. Il hésite également entre cette option et l'option de poursuivre Charles de Foucault au désert. D'ailleurs, Claudel le pousse dans ce sens-là. Oui. Mais Massignon, ce n'est pas le désert berbère qui l'a tiré comme Charles de Foucault, mais plutôt le désert arabe, c'est complètement différent. Et surtout, Massignon est un intellectuel chercheur, donc il était passionné de comprendre Al-Hallaj, de comprendre l'islam. Donc il a fréquenté l'université d'Al-Azhar, etc. Il n'en a pas fini. Et puis la troisième voie, c'était la voie un peu, finalement, de cette société qu'il a rattrapée quelque part, d'un mariage de convention avec sa cousine.
Avec sa cousine Marcel.
Oui, et d'ailleurs, il dit aussi, Marcel, c'est ça, et il dit aussi quelque chose de terrible. Dans ses notes sur la musique, il a dit, je cite de manière approximative, « J'ai entendu, j'ai accepté l'amour qui est un terrible mendiant. » Donc, ils fondent la famille. Et d'ailleurs, toujours dans les notes sur la conversion, il dit aussi qu'il aurait espéré d'entraîner son épouse dans ses activités spirituelles et culturelles, mais que ce n'était pas tellement envisageable. Elle avait tout à fait un profil différent.
Oui.
Il jongle avec toutes ses obligations. D'un côté du père de famille, je pense qu'il était aussi très actif à sa manière en tant que père de la famille. Il s'occupait de ses enfants, mais il s'occupait énormément de son travail scientifique.
Oui, il était souvent absent. Enseignant au Collège de France, on n'a pas dit, hein, universitaire, enseignant au Collège de France.
Et il s'est promis d'ailleurs de passer je ne sais plus combien de semaines ou de mois, ou aller au moins tous les 6 mois ou tous les 8 mois dans les pays d'Orient. Donc il était souvent absent de la maison. Et donc, par un concours de circonstances, des années plus tard, en 1934, il retrouve au Caire Marie-Cahil. Selon une nouvelle qualité, je dirais spirituelle, hein, et cette rencontre donne la naissance de Badalia. Parce que Marie-Cahil, d'ailleurs dans un texte merveilleux qui a été retranscrit par Jacques Kériel, et Marie-Cahil raconte comment ça s'est passé. Elle dit, j'ai raconté à Massignon mon activité bénévole auprès des musulmans. Bien sûr, cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et c'est comme ça que Massignon, finalement, lui a dit, écoute, il faut que vous fassiez un vœu. Quel vœu? De donner votre vie pour les musulmans. Quoi? Impossible. Mais si, donc lui a expliqué sa théorie. Et finalement, ça marchait. Et c'était à Damiette, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas de hasard. Ouais. C'est le lieu de la rencontre de Saint François d'Assise avec le sultan, Malik al-Kamil. Que là, donc, ce mouvement, ce courant de Badalia a été fondé, qui était, je pense, peut-être l'œuvre, de son point de vue, l'œuvre la plus essentielle dans sa vie.
Et c'est un vœu de substitution.
De substitution mystique.
Alors, un mot sur Badalia. C'est le terme que l'on emploie aujourd'hui pour désigner l'échange des otages entre, les Palestiniens et les Israéliens.
Oui.
Donc c'est ce terme vraiment de vie pour vie.
Oui, de substitution.
Oui, échange réciproque. Sur la substitution. Oui.
Pendant les croisades, on utilisait aussi ce terme-là déjà. Il y a très longtemps.
Ça veut dire d'autres choses aussi.
Mais... il y a encore beaucoup de choses à dire, mais bon, on va arriver au terme de l'émission. Bon, on va rappeler que Massignon, à l'âge de 65 ans, va se faire prêtre melkite, hein, au moment où c'est Pie XII, qui est pape à l'époque, il autorise à ce qu'on passe du rite latin au rite catholique melkite. Et donc, Massignon est ordonné prêtre melkite en 1950 à Notre-Dame de la Paix, l'église Notre-Dame de la Paix au Caire. Ça, c'était un de ses rêves de sa vie, semble-t-il, d'être prêtre. Il va créer ce pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, à Vieux-Marché, dédié aux 7 dormants d'Éphèse. Et puis, on en arrive à la fin de votre film. À ce que dit François Angelier, et ça, je tenais à ce qu'on en parle, parce que ça nous ramène à l'actualité la plus brûlante des relations entre musulmans et chrétiens aujourd'hui, notamment dans notre pays, mais pas seulement. François Angelier dit que Massignon s'est posé avec angoisse tout au long de sa vie des questions qui sont aujourd'hui les nôtres, celles des rapports entre l'Occident et l'Orient, entre l'Europe laïque et le monde musulman, la question des migrants, des déplacés. Mais il dit que ces questions qui sont les nôtres, Massignon ne donnait pas les mêmes réponses que celles que nous apportons aujourd'hui. Alors, quelles étaient les réponses de Massignon et quelles sont celles que nous, on apporte aujourd'hui, Père Jean-Jacques Couchy?
Je pense que ce qu'on a dit à plusieurs reprises, hein, Massignon apporte un autre regard, une attitude spirituelle de fond qui dépasse les occurrences historiques. C'est sûr que le monde qu'il a connu, qui était celui de la colonisation, avec des rapports aussi démographiques, hein, qui sont complètement différents aujourd'hui, dont la situation politique, économique, de rapport de civilisation n'est pas du tout la même. Hein. Malheureusement, cette espèce d'intérêt, un peu fascination pour l'Orient, mais dans le public, est devenu une crainte et une sorte de menace. Donc, je crois que c'est d'autant plus nécessaire de gérer les choses au mieux, mais aussi de ne pas perdre cette perspective d'une rencontre au-delà de l'agressivité, de la violence, de l'opposition, pour essayer, sans vouloir réduire l'autre à soi, retrouver chez l'autre nos propres paramètres, mais s'enrichir de nos visions du monde, régler les problèmes avec pragmatisme, mais ne pas oublier que tout être est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est une des très bonnes choses du pape François, Fratelli tutti, sommes tous des humains, et même si c'est un but qui peut paraître parfois lointain et inaccessible, il faut continuer de marcher vers la fraternité tout en étant pragmatique et réaliste.
Pour comprendre l'autre, il ne faut pas l'annexer, mais devenir son hôte.
Faut le connaître.
Ouais, c'est ce que dit Massignon, mais donc il faut se décentrer, parce que ce n'est pas utopique.
Et le meilleur moyen, c'est d'apprendre la langue. Qu'a fait Massignon.
Oui et non, c'est utopique et ce n'est pas du tout utopique, parce que le dialogue islamo-chrétien nous renvoie au dialogue tout court. Hein. Le dialogue dans le couple, dans la famille, dans la société, entre les concitoyens, entre les États. Massignon a vécu, était actif au moment de la décolonisation.
Il meurt en 1962, c'est l'année de l'indépendance de l'Algérie.
C'est-à-dire...
Aussi, c'est troublant.
Bien sûr, rien n'est simple ni singulier, comme disait le poète. Et la vie de Massignon a eu plusieurs étapes par rapport au colonialisme. Mais à un moment donné, c'est-à-dire au moment le plus décisif de sa vie et de sa conscience, il pensait, et il a tout fait, pour que les pays arabes soient acteurs de leur destin. Pour que les pays occidentaux ne décident pas leur place. Donc il y a l'Algérie, mais il y a aussi l'épisode marocain. À côté de Mauriac et d'autres intellectuels, il était de ceux en France qui se sont battus pour que Mohamed V, qui était envoyé en exil d'abord en Corse, ensuite à Madagascar, puisse revenir au pays pour retrouver les rênes de son pays. Maroc avait les droits de cela. Finalement, ça n'a pas tellement vieilli comme constat. Parce que très souvent, on aimerait avoir une forme ou une autre d'ingérence dans la vie des autres pays. Et je pense que c'est exactement la même chose dans la vie quotidienne entre les hommes, au sein même d'une même société. C'est-à-dire, c'est un exercice qui est tellement difficile, il peut paraître utopique, mais à mon avis, il est possible de se décentrer de soi. C'est-à-dire, c'est finalement par le biais de compassion ou d'empathie. Voilà, l'empathie, c'est très important. Alors, il y a... une opinion que j'ai entendue ces derniers jours, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. On dit que la seule chose que l'intelligence artificielle ne sait pas faire aujourd'hui, c'est l'empathie. Je pense que c'est un trait humain. C'est l'empathie qui nous permet de nous décentrer et de rentrer du point de vue de l'autre.
À la place de l'autre.
Ressentir l'autre de l'intérieur, empathie.
Le sujet est passionnant, mais bon, il faut malheureusement conclure cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Je signale que votre film, Grégor Tomczak, Louis Massignon, Le vœu et le destin, est visible en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube de KTO. C'est un document idéal pour qui veut découvrir la vie et l'œuvre de Louis Massignon. Cette émission était animée par Éric Dupré, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.